Bonjour, bienvenue à la table ronde présentation de Denis Bajram, sa vie, son œuvre. Alors, Denis Bajram est né en 1970. Il est élevé dans la religion catholique chez les oratoriens. Et puis, il remet sa foi en cause quand il arrive aux Beaux-Arts. Mais après les Beaux-Arts, il passe aussi par les arts décoratifs. Il a étudié également à Jussieu les mathématiques. Il collabore d'abord à des fanzines, Scarf, Le Goinfre. Il illustre pour Hachette. Il crée un atelier en région parisienne avec Mathieu Loffray, rejoint l'atelier Sans Eau à Angoulême, l'atelier Entropie, puis travaille aussi à l'atelier Saint-Julien, l'Étuve. Et il a une œuvre qui est principalement représentée, on connaît beaucoup Universal War, parce que c'est une énorme saga très importante, planifiée quand même sur trois séries de six albums chacun. Mais il a commencé par d'abord une première BD qui était déjà dans la science-fiction, mais la science-fiction un peu horrifique et avec de l'humour, qui est Cryozone, chez Delcourt, scénarisée par Thierry Calto. Une histoire spatiale sur fond d'intérêt économique. Comment s'est passée la genèse de ce projet?
En fait, c'est un peu n'importe quoi le début de ma carrière dans la bande dessinée, parce que j'avais fait beaucoup de fanzina. Je m'étais fait remarquer là-dedans. On avait eu un alphar avec mon fanzine à Angoulême. Donc voilà, j'avais ma petite notoriété d'amateur, on va dire. Mais j'avais un peu de mal à rentrer dans les maisons d'édition. Et il s'avère que j'étais en train de préparer un projet dans l'atelier que j'avais avec Mathieu Loffray à l'époque, qui venait tout juste de signer chez Delcourt. Et j'avais préparé un projet de science-fiction qui est le prototype de Universal War. Et Guy Delcourt est passé à l'atelier avec Thierry Calto, le scénariste d'Aquablue, qui était la grande série de science-fiction à l'époque. Et ils sont passés pour d'autres raisons, à savoir pour parler d'un CD-ROM. Et Mathieu, à l'époque, avait fait pas mal de multimédia. Et il avait dit, ouais, mais Denis s'y connaît encore plus. Passez à l'atelier, on va déjeuner, on parlera de ce problème de CD-ROM d'Aquablue. Et Thierry Calto a regardé mes planches de mon projet en cours à l'atelier, comme ça. Et puis, on est allé manger, on a parlé du CD-ROM. Et il a dit, je peux remonter? Il est remonté à l'atelier, il a regardé les planches, il fait « Tu veux pas faire Aquablue ?» Donc mon entrée dans la bande dessinée, c'est on me propose de reprendre la plus grosse série de SF de l'époque. Il s'avère que ça s'est pas fait parce qu'il n'avait pas prévenu le dessinateur de l'époque qu'il allait lui mettre un petit jeune dans les pattes. Donc ça s'est passé un petit peu de manière un peu sportive et assez vite. Thierry m'a dit « Bah écoute, il y a le projet Cryozone qui vient d'être abandonné par... Stan Evans, avec qui il l'avait développé, parce que finalement il le trouvait trop sérieux à l'arrivée. Il m'a dit, bon, puisqu'on ne fait pas Aquablue, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse Cryozone? Donc voilà comment ce projet se monte. Donc ce n'est pas du tout mon histoire. C'est un projet développé avec d'autres, qui rempli de second degré, puisque c'est une histoire de zombies dans l'espace.
Mais alors après le travail pour le fanzine, là tout à coup on se retrouve avec deux albums, avec un certain degré de réalisme, avec des exigences de publication. Obligatoirement, on en ressort transformé. Qu'est-ce que ça a apporté?
En fait, ce qui est assez étrange, c'est que notre génération, on a eu beaucoup de mal à signer. Parce que de fait, on a été beaucoup plus nombreux à arriver. Les vieilles maisons d'édition d'Argo, Casterman et compagnie voyaient pas le vent tourner. Ils n'étaient pas au courant que Star Wars était sorti, que Akira existait. Donc en fait, les influences comics, les influences manga, tout ça, ils n'en voulaient pas. Alors nous, on était la toute première génération qui était franchement influencée par le comics. Et pas mal pour des gens comme moi par le manga. Et quand ils voyaient nos planches, ça leur passait totalement au-dessus de la tête. Donc de fait, on était très près. Moi, quand j'ai signé, il y avait un copain qui avait compté, je ne sais plus, que j'avais fait 500 ou 800 planches de bande dessinée déjà. Donc j'étais un véritable auteur, même si je n'avais jamais eu d'album. Donc en fait, cet album, ça a été vraiment une sorte de, non pas une révélation de ce que j'étais capable de faire, mais au contraire, une sorte de
continuité.
Oui, puis j'ai sédimenté mon artisanat. Je l'ai fixé, j'ai essayé de lui donner une stabilité, parce qu'avant, je faisais 5 pages par-ci, 8 pages par-là. Voilà, ça a été plus un moment où il a fallu accepter de rendre 96 pages dans un seul style, avec un seul rendu. Donc voilà, quelque part, j'ai choisi mon style, même si ce n'est pas la démarche que j'avais. Mais voilà, je me suis retrouvé à figer un style à ce moment-là. Parce que voilà, on va pas se dessiner un album en changeant de style toutes les 5 pages. Quoi. Voilà, c'est surtout ça que ça a apporté.
Oui. Alors, vous parliez de Star Wars et d'Akira, justement. Bon, l'influence du découpage et de la vitesse, notamment que l'on peut avoir dans le manga, est évidente. Mais il y a une autre influence aussi, c'est celle des comics américains.
Alors, beaucoup plus importante chez moi. À l'âge de... J'ai commencé en tant que lecteur tout gamin, comme tout le monde, avec Astérix et... Enfin, tout le monde à l'époque. Astérix et Tintin. Tintin, c'était ma fascination complète. Je les ai lus 20 fois, 30 fois, enfin... Donc, quand j'ai commencé à vouloir faire de la bande dessinée, je voulais faire du Tintin. Puis très vite, j'ai voulu faire du Goldorak, parce que Goldorak est arrivé à la télé française. Et alors, les robots géants japonais, c'était génial. Et très, très vite, il y a des copains qui m'ont passé mes premiers Strange, donc les revues de super-héros françaises de l'époque. Strange, pardon, je l'ai dit à l'anglaise. Strange, Nova, tout ça. Donc, j'ai commencé à lire des super-héros américains. Et alors là, c'était la révélation, par-dessus la révélation de la révélation. Et de l'âge de 11 ans à 16 ans, 17 ans, je n'ai quasiment envisagé mon avenir en tant que dessinateur de BD que comme un dessinateur de super-héros aux États-Unis. J'ai commencé à préparer même un gros projet avec Jean-Marc Lenné, qui depuis a fait sa carrière en parallèle en tant que critique de BD et de comics. C'était vraiment le comics. Il s'avère que sur ma route, il y a eu la rencontre avec un livre qui a été fondamental pour moi, qui a été La fièvre d'Urbicande de Benoît Peters et Skeuten, qui était le tome 3, je pense, ou le tome 4 des Cités Obscures, et de celui qui a sorti juste après, que j'ai acheté juste après, qui était La Tour, qui sont deux extraordinaires livres, et qui m'ont révélé que la BD franco-belge, c'était pas seulement du Gronet, les genres de choses, mais ça pouvait être des bouquins totalement majeurs en termes d'ambition, et en termes d'artisanat du dessin, puisqu'il y a chez Skeuten un niveau de dessin de type gravure extraordinaire qui, à la fin de l'adolescence, m'a totalement fasciné. Donc ces deux bouquins m'ont retourné comme une crêpe en disant « Ah, mais l'Europe, c'est pas mal, finalement. » Et puis alors, comme c'était une collection, j'ai été acheté ici même de Tardy, qui était dans la même collection, la collection à suivre de Casterman. Et alors là, je comprenais même pas ce que je lisais. Le dessin, c'était un truc que je devais pas aimer, mais j'aimais quand même. Il y avait un scénario qui était... espèce de fable semi-onirique, semi-kafkaïenne, enfin, c'était... Et ça a vraiment été des chocs très importants. Et en fait, ça m'a... quelque part, c'est ce qui m'a orienté à sans doute aller vers les beaux-arts. C'est-à-dire, ça m'a révélé que la bande dessinée, c'était un art, et que l'art, c'était pas que la bande dessinée. Et ça m'a ouvert des tonnes de questionnements que je me posais pas avant. Avant, j'étais juste un geek, disons-le, qui se limitait à être un fan d'un certain genre, quoi, voilà.
Oui, justement, pour parler de passerelles entre différents médias, aux Arts Déco, vous aviez étudié la scénographie. Quelle a été l'influence, et est-ce qu'il y a déjà eu une influence de la scénographie sur la mise en page ou sur la mise en scène des personnages, des lieux dans les BD?
Alors, la scénographie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art du décorateur de théâtre jusqu'au commissaire d'exposition, on va dire. C'est tout ce qui est l'aménagement de l'espace et de la scène pour dire des choses. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée a priori. Toutes ces études d'art et la scénographie, ça m'a fait réfléchir beaucoup à qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est que communiquer, qu'est-ce que c'est que raconter, comment on transmet les choses aux gens, qu'est-ce que les gens en comprennent. Parce que l'air de rien, on croit au début que quand on fait un dessin, tout le monde va voir le même dessin. Et puis en fait, très très vite, on s'aperçoit que chacun a sa perception. Pareil pour une expo. Donc comment prendre les gens par la main? Donc par exemple, dans le cadre de la scénographie d'exposition, j'ai appris à comprendre les rythmes de quelqu'un face à une exposition et à le prendre par la main. Et je pense que dans la bande dessinée, ma manière de raconter, c'est une manière de prendre les gens par la main et les guider dans mon récit, de manière de faire un chemin très marqué, même si j'essaye qu'ils ne se voient pas. C'est en douce.
Oui. L'école Hergé, l'école franco-belge.
Finalement, oui. Oui.
Revenons sur d'autres BD, notamment les Mémoires mortes, là, publiées aux Humanoïdes, associées. Alors, la BD est un peu particulière pour ce qui vous concerne, puisque vous avez écrit le scénario du tome 1 et réalisé les couleurs du 2. Comment s'est passée cette collaboration? Parce que finalement, alors là, il y a réellement... un certain nombre d'artistes qui se sont attelés au projet.
En l'occurrence, j'ai fait le scénario du 1 et le storyboard. Oui. Ce qui fait que cet album ressemble beaucoup à du Denis Bajram. C'est même ça qui m'a fait réaliser qu'il fallait plus que jamais que je fasse de storyboard pour un autre dessinateur. Parce que j'ai des storyboards très, vous avez sans doute vu dans l'expo, qui sont très prégnants, qui vont un peu droit au but, où on voit déjà la page finale de manière très claire. Et le dessinateur, il était assez jeune, mais bon, je pense que ça fait ça à peu près tous les gens que j'ai rencontrés, a eu tendance à rentrer dans mon chemin et à finalement à faire du Denis Bajram. Ce qui n'est pas très intéressant parce que je ne suis pas à la recherche de clones de moi-même. Donc voilà, c'est un album dans lequel j'ai appris que j'aurais du mal à collaborer, justement, en étant trop fortement auteur de bande dessinée. Je n'envisageais pas d'écrire des scénarios parce que quand on voit dans sa tête les pages, réellement, s'amuser à les retranscrire en littérature, en texte, c'est ingrat. Et on a l'impression de gâcher et de perdre énormément. Et c'est en effet le but, c'est en effet de perdre beaucoup d'informations pour que le dessinateur puisse s'en emparer et créer son propre monde. Ce qui fait que les collaborations suivantes en termes de scénario, et ça a commencé dès le tome 2 des Mémoires mortes, ça a été avec Valérie Mangin, mon épouse, qui est scénariste et pas dessinatrice, et pour qui sur le texte est le seul moyen de communiquer de ce qu'elle voit d'une planche de bande dessinée. Donc voilà, et c'est elle maintenant qui écrit nos histoires communes.
Oui, mais c'est vrai que les didascalie dans un scénario, finalement, c'est pratique et c'est obligatoire, mais en même temps, ça prend un temps fou, parce qu'il faut exprimer tout ce qui est visuel, et que en fait, nous, on voit immédiatement comme tâche, comme signe sur la page.
Oui, voilà, c'est quand même très étrange de revenir à cette non-compréhension de l'image. Enfin,
une neutralité.
Il faut 4 pages de texte pour résumer une seule image, quoi, si on veut mettre tout ce qu'on compte mettre dedans. Quoi. C'est...
Surtout que quand on regarde les pages, les premiers jets, les mises en place dans l'expo, on s'aperçoit très rapidement qu'en fait, c'est mis en place, évidemment, de façon très, très lâche, puisque bon, il s'agit d'un croquis de base, mais par contre, la lumière, la mise en place, l'espace et la narration, mais surtout la lumière, j'insiste dessus, sont déjà là, comme si finalement, après, une fois que c'était décidé, il n'y avait plus qu'à exécuter et en précisant, mais toutes les intentions sont déjà présentes. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'avec le travail au marqueur assez épais, on a les masses lumineuses.
Alors, depuis 2004, ce n'est pas du marqueur, c'est du gros crayon dans Photoshop.
Alors oui.
mais c'est l'esprit marqueur. J'ai clairement gardé ce que j'avais capturé au marqueur avant sur mes formats A4, qui d'y aller en masse, justement. Pour moi, le brouillon de page, le storyboard, déjà, alors je fais en général au moins par séquence, c'est-à-dire s'il y a une scène, je fais toute la scène d'un seul tenant. Ça m'arrive de faire même par gros chapitre et de plus en plus même de faire tout le storyboard avant l'album. En fait, c'est un moyen pour moi de lire la bande dessinée avant qu'elle ne soit faite. Si je ne peux pas me relire, je me rends compte que je n'arrive pas au niveau de finesse que je veux à la fin. Donc je me relis. Je réfléchis jusqu'à que la bande dessinée soit optimum. Et je ne vois pas comment me passer de la lumière, qui est si fondamentale dans ma manière de dessiner et de faire les images. Je ne vois pas comment me passer, par exemple, de l'impact des planètes, comment les représenter avec un trait. Ça n'a pas du tout le même impact que ça aura à la fin en couleur. Donc voilà, je vais essayer de m'approcher au maximum. Et quelquefois, je me dis même que je vais finir par faire mes croquis en couleur, à part que ça pose un problème de tambouille monstrueux, donc je laisse tomber. Quoi. Mais dans l'absolu, je pourrais travailler en couleur, gros feu de couleur comme ça, au marqueur, comme on faisait dans la publicité dans le temps, ça pourrait être une idée. Quoi.
Oui, ceci dit, en plus, vous parliez d'Hergé. Dans la ligne claire telle qu'elle avait été codifiée par Hergé, on n'avait que des aplats et même pas de travail d'ombre. Alors qu'une des caractéristiques de votre travail, c'est qu'il y a au contraire des couleurs qui sont très dégradées, les explosions sont assez détaillées, mais toujours encore avec des systèmes de masse. C'est-à-dire que l'ancrage apporte une profondeur, mais il y a un réel travail de réalisme. Est-ce que déjà la couleur prend... quelle est la proportion en termes de temps de travail entre le noir et blanc et la couleur dans la réalisation d'une planche?
Alors, ça a changé avec le temps. Aujourd'hui, là, dans les derniers albums, depuis au moins 3 tomes, c'est pas loin d'être kiff-kiff. Alors, il y a en gros, on va dire que je fais 2-3 pages de storyboard par jour. Je suis épuisé après parce que c'est très intellectuel. Quand je finalise la planche, il m'arrive de la faire dans la journée. Alors, attention, hein, une journée chez moi, c'est 14 heures de boulot.
C'est une journée normale. Hein.
Voilà, c'est une journée de dessinateur de bande dessinée. Hein, c'est pas une journée standard. Donc, on va dire 2 jours de travail, mais voilà, c'est une grosse journée de boulot. Et souvent, quand je fais la couleur derrière, c'est pas beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a tellement de subtilité dans ce que j'essaye de mettre en couleur que ça me prend beaucoup de temps. Alors qu'au début, c'était trois quarts noir et blanc et un quart couleur. Quoi. Aujourd'hui, on se retrouve avec un équilibre qui est en train de se déplacer vers la couleur. Parce que je fais de plus en plus de grands vides remplis par la couleur. En fait, je reviens à RG, justement. Il y a beaucoup plus de plus en plus de blanc dans mon travail, même s'il y a des gros aplats noirs qui n'apparaissent chez RG. Mais...
De toute façon, déjà, le travail sur calque dans Photoshop aide.
Oui, mais pareil, mes couleurs, il y a très peu de calque. C'est-à-dire que je vais avoir un calque, si j'ai un ciel étoilé, je vais faire un ciel étoilé, je ne vais pas m'embêter, puis je vais faire la couleur du reste par-dessus. Mais il n'y aura pas 20 calques empilés. Quoi. C'est de la couleur de peinture, je peins. Donc je remplis à la peinture, je fais des grands aplats, puis j'affine jusqu'à obtenir le degré de finesse colorée et de détail que je veux. Quoi.
Alors en parlant de détail, justement, il y a un point important, c'est en fait la notion de réalisme. Dans la science-fiction, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une nécessité, mais très souvent, on part vers un dessin réaliste de manière à ce qu'il y ait en tout cas une sorte de crédibilité. C'est le cas dans une certaine mesure. Par exemple, les planètes, les explosions, les effets spéciaux, si on peut dire, sont très réalistes. Mais néanmoins, quelle est cette part dans votre esprit ? Est-ce que ça correspond à une volonté ou pas ?
Pour moi, je ne suis pas un dessinateur réaliste au sens où je représenterais la réalité. Je trouve que je suis un dessinateur qui pense quand même beaucoup en termes de concepts. C'est-à-dire que je représente des concepts. Quand je dessine Mars, je n'essaie pas d'avoir une Mars photographique. J'essaie d'avoir le concept d'une Mars, et d'une Mars réaliste en l'occurrence, mais plus de que les gens tout de suite voient que c'est Mars. Que quand il y a un ciel, c'est tout de suite un ciel de... On voit une galaxie, c'est tout de suite une galaxie. C'est-à-dire que j'essaie d'aller à des sortes d'évidences. Après, c'est des évidences très esthétisées. Mais il y a quand même toujours cette idée d'évidence RGN, je pense, et qui est celle du comics, le super-héros aussi. Hein. Dans ma manière de dessiner, je ne suis pas réaliste au sens où, par exemple, je n'ai jamais de photo à côté de moi, quasiment. Tout à l'heure, on en parlait, mais oui, alors quand je fais New York, là, oui, je sors une photo parce que je ne vais pas m'amuser à essayer de me rappeler dans l'ordre tous les gratte-ciels. Mais je le fais à ce moment-là, uniquement pour cette case-là. Je l'ai fait, je me souviens, quand j'ai dessiné à Harvard aussi, pour avoir un Harvard qui ressemble à peu près à Harvard. Mais 99,9% du temps, les images, elles sortent de nulle part. Et c'est vrai pour les humains aussi. Alors, au tout début d'Universal War One, je n'avais pas le niveau de ce que je voulais faire. Donc, je me suis appuyé sur quelques images pour réussir les ombres sur les visages, mais ce n'étaient pas des photos. J'allais voir des gens qui avaient déjà fait des traitements, comme par exemple, comment s'appelle-t-il ? Un illustrateur américain qui travaille en aquarelle, qui est très bon, qui a des aquarelles excellentes, qui fait d'après photo. Mais comme il est traité déjà en aquarelle, et que je ne travaillais pas en aquarelle, j'étais sûr que j'étais ni calé sur la photo, ni calé sur son rendu à lui. Donc ça permettait de voir son interprétation, de comprendre mieux des ombres, et de revenir dans mon propre travail, d'être sûr de me les approprier. Et je l'ai fait, ça, gentiment, sur la première moitié du tome 1, le temps de réussir à résoudre les derniers problèmes que je n'avais pas résolus sur Cryozone, où je n'avais pas été aussi fort sur les ombres, sur les visages, sur ces choses-là. Voilà, donc ça a été trouver un moyen de pas... Voilà, j'ai pas de photos, j'ai pas de documentation, j'ai pas de 3D. Les gens pensent qu'il y a de la 3D, il y en a jamais. Il y a un dessin en 3D, c'est une espèce de sphère ou filaire qui a été fait par un copain dans le tome 1, parce que c'était plus rapide que maintenant je la ferai à la main parce que j'ai appris à être patient.
La sphère légère à facettes d'ailleurs.
Oui, à facettes type projection holographique
à la Jedi.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est la seule 3D qui a jamais été utilisée dans Universal War One. Autrement, il y en a pas. C'est toujours du dessin. Alors c'est de la perspective à la main. Je fais mes points de vue dans Photoshop, mais voilà. Enfin. À la perspective, je triche un peu parce que j'ai eu de la chance quand j'étais en 6e au cours de dessin. J'ai eu un professeur de dessin qui a vu que j'étais un peu plus doué que la moyenne. Il m'a appris à faire de la perspective en 6e. Donc, quand on apprend un truc aussi complexe, déjà aussi jeune, voilà, à 30 ans, je fais de la perspective à main levée maintenant. En fait, quand je dis que je place mes points de fuite, c'est pas vrai. J'utilise plus de points de fuite depuis 15 ans, quoi. C'est-à-dire que naturellement, le cerveau les trace automatiquement. Voilà,
oui, de toute façon, ça se voit dans les mises en place de storyboard. En fait, la hauteur de la caméra est parfaitement définie. Les lignes de fuite sont déjà en place. Après, bon, il y a de la correction, mais tout est déjà en place. Je ne veux pas dire intuitivement, parce que ce n'est pas intuitif, c'est juste par mémoire de l'espace.
J'ai fait des gammes sur ce terrain-là très tôt. Voilà, donc je joue ma gamme naturellement sans même me poser de questions. Parfois, je me surprends même quand je reprends le board à m'apercevoir que j'ai fait des perspectives fausses qui marchent. parce qu'en fait, je me dis pourquoi elle marche alors qu'il y a des trucs qui ne devraient pas aller ensemble. Puis je m'aperçois que j'ai tracé un circuit dans les points de fuite inconsciemment, ce qui fait que le cerveau se dit aucun problème alors que c'est complètement faux en fait. C'est drôle. Hein, quand...
Pour revenir aux couleurs justement et aux gammes, pendant très longtemps et même encore maintenant, il y a des planches qui sont entièrement construites sur des degrés de rouge, orange, jaune, jusqu'à l'incandescence qui arrive au blanc, mais vraiment avec des planches qui n'ont même pas de complémentaire justement pour faire chanter la dominante. Il y a un intérêt pour certaines gammes colorées ou même certaines teintes spécifiques.
Alors au début, franchement, j'ai fait ce que je pouvais. Universal War One, c'est mon premier album en couleur. Voilà, je me suis battu avec les peu de moyens que j'avais. J'avais fait de la peinture, beaux-arts et tout, mais bon, enfin, c'est pas du tout le même exercice. Alors, il s'avère que l'orange, parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup d'orange dans mon travail, c'est la couleur du futur, quand je suis gamin. Les cosmonautes, ils portent souvent des combinaisons orange quand ils rentrent sur Terre. Alors, ils avaient des combinaisons orange, parce que comme ça, s'ils étaient largués en pleine nature ou dans la mer, on les voyait. Donc c'est une couleur pour pouvoir les repérer, c'est une couleur de récupération. C'est des choses qu'on a évidemment donc vues dans 2000 ans d'essai de l'espace, dans Cosmos 99. On le retrouvait à chaque fois qu'on voulait... Puis alors le TGV était orange. Moi tout gamin, j'avais des livres où on nous présentait les prototypes du TGV. Ils étaient en orange, voilà. Donc l'orange était la couleur du futur. Je pense que ça s'inscrit en moi comme cette couleur comme ça absolue du dynamisme futur. Donc naturellement, je reviens très facilement à l'orange. À l'époque, je portais des t-shirts orange tout le temps, mais j'arrêtais parce que je ressemblais à un signal d'alerte dans les conventions. Quoi, mais...
En même temps, on pouvait vous repérer dans la mer.
Hein. Ah bah oui, puis on me retrouvait facilement dans les conventions, mais à un moment, c'était un peu... Mais voilà, donc... alors après, le tome 1, je me suis trouvé face à alors, cette envie d'orange qui était là. Mais alors, avec les limites de mes moyens, j'ai fini par adopter un système très simple qui était d'avoir cette couleur rouge ou orange qui était la couleur de la lumière forte. Et je mettais du gris avec, qui le faisait sonner en tant que complémentaire, qui étaient des gris bleus, des gris violets. Comme ça, j'avais cette espèce de simplicité à chaque fois, sur chaque scène. Alors parfois, deux, trois fois, j'avais remplacé par le vert, mais c'était vraiment... Et ça me permettait, c'était une méthode très simple. En fait, on était dans des monochromes, un système de monochrome rouge, monochrome orange, monochrome jaune parfois. Voilà. De temps en temps, je le fais encore, parce que c'est devenu la signature d'Universal War. Donc on est piégé par des choix qu'on fait au tout début avec ses pauvres moyens et je continue à aimer ça, donc ça m'arrive d'avoir un grand plaisir à faire une planche où il y a le soleil, donc on passe du rouge au jaune blanc sur toute la planche et de faire tout avec ça parce que c'est vraiment réjouissant à l'œil, ça sonne. Et puis d'autres fois je fais des trucs très compliqués. Il y a quelques planches où je me suis aperçu que j'arrivais à mettre toute la couleur de l'arc-en-ciel sur la planche. Et sans que ça choque, et on m'en parle même pas, ça prouve à quel point je le fais normalement. Donc voilà, j'ai appris en 18 ans à faire de la vraie couleur. Quoi.
Mais il y a aussi un point concernant les couleurs qui est assez délicat, c'est que, bon, maintenant on travaille sur écran, bon, il faut que l'écran théoriquement soit bien étalonné, on travaille avec un profil couleur, bon, mais selon le papier... Les couleurs, le contraste, les valeurs risquent quand même de dévier. Il y a des planches à la fin du premier volet qui sont assez extraordinaires, où le soleil a disparu et on est dans une pénombre qui est très impressionnante parce qu'on est très très proche de valeurs complètement noires. On n'est que dans des gris colorés, mais très sombres. Est-ce que ça a posé des difficultés ou en tout cas soulevé des interrogations sur ce que ça pouvait donner une fois imprimé?
Je ne l'aurais pas fait au début. Entre-temps, non pas que je n'avais pas les capacités techniques, parce que j'étais meilleur sur ce terrain-là que j'étais en tant qu'auteur de BD, parce que j'ai, aux Arts Déco, en parallèle de la scénographie, j'ai fait beaucoup de graphisme, et en fait j'ai fait de la direction artistique chez Hachette, etc. Et entre autres, j'ai fait partie des gens qui ont apporté le numérique dans le groupe Hachette au milieu des années 90. Donc s'il y a une chose que je maîtrise très bien, c'est cette science de l'ingénieur, de la couleur et de l'imprimerie. Quoi. Toujours, je me suis bien débrouillé avec ça. On avait une limite quand même, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, qui était quand même qu'on avait en face de nous des imprimeurs qui étaient tous un peu normés comme ils voulaient, utilisaient les encres qu'ils voulaient, etc. Depuis, il y a les normes ISO qui sont arrivées, donc on sait comment travaillent les imprimeurs, et si on gère bien toute sa chaîne graphique, on sait exactement à l'écran ce qu'on va avoir à l'arrivée. Alors en ça, il faudrait que beaucoup d'auteurs de bande dessinée fassent les formations nécessaires pour comprendre ça. Mais si on maîtrise cette chaîne graphique, on n'a pas de surprise. Moi, mes livres, ils sont imprimés en Chine, chez Marvel aux USA, ou chez Casterman, ils ont la même tête. Alors qu'aux USA, les encres de Kodachromie ne sont pas les mêmes. C'est carrément des encres différentes. Elles sont décalées dans le spectre de manière très forte. Mais comme tout mon système est calibré et que je donne bien les profils, etc. avec, de fait, eux s'adaptent sans problème à ça, puisque à la fin, tout le monde va être sur la même norme faux gras de X machin truc chouette. Quoi. Voilà.
Oui, ça, c'est l'aspect mathématique de l'affaire. En parlant un peu de mathématiques et de technique, il y a aussi une facette de la personnalité que l'on connaît moins, c'est celle de programmeur, concepteur de jeu.
Oui, il s'avère qu'à force de jouer, j'ai rejoint une équipe de développement, un studio, et j'ai fait pas mal de développement dans le jeu vidéo. J'ai toujours, en fait, gamin, je joue au Lego et je suis dessiné. Donc c'était la BD et le Lego. Et puis un peu de piano. En grandissant, j'ai fait de plus en plus de musique. Le Lego a été remplacé par l'informatique. Alors, quand je dis l'informatique, c'est l'époque où un ordinateur avait 64 de RAM. Hein. Vous avez bien entendu, 64K de RAM. Hein. On met pas un fichier Excel vide dedans maintenant. Quoi. On a appris avec ça. Donc, je fais partie de la génération, celle qui a réussi à apprendre avec ces outils extrêmement compliqués, qui comprend très très bien les outils d'aujourd'hui, parce qu'on voit comment ça fonctionne à l'intérieur de ce que sont devenus les systèmes informatiques aujourd'hui. Quoi.
Mais c'était programmé en langage machine direct.
On n'avait pas le choix, c'était langage machine. J'ai utilisé quelques basiques, les basiques de base qu'il y avait à l'époque. Et puis très très vite, on pouvait rien faire, donc j'ai appris le langage machine. Donc à 14 ans ou 15 ans sur mon Amstrad, je programmais des jeux vidéo en filaire, entièrement en langage machine. J'avais pas vu Star Wars, mais j'avais vu à la télé l'extrait de la scène où le vaisseau rentre dans l'espèce de canyon là sur l'étoile noire. Et je lui ai dit génial pour un jeu vidéo. Donc en filaire, j'avais programmé tout un canyon, et puis on rentrait avec les vaisseaux dedans, puis on essayait d'abattre les vaisseaux qui étaient devant. Quoi.
Mais j'ai joué à ce jeu.
Peut-être, il a traîné un moment dans les clubs d'Amstrad, les gens commençaient à changer des cassettes. Voilà. Bon, au bout de 2 heures, on avait compris comment tuer tous les vaisseaux, donc on arrêtait. Mais c'était, et on n'avait pas beaucoup de jeux 3D à l'époque, et c'était un 3D filaire comme il y avait. Voilà, c'était rigolo. Donc, mais ça, cette passion-là, elle est toujours là. J'aimerais bien avoir 3 vies pour pouvoir. J'aimerais bien faire du développement informatique à plein temps. Quoi.
Sinon, toujours pour. Concernant, je prends la science-fiction, puisqu'on parlait de Star Wars. D'où vient le goût de la science-fiction ? Parce que finalement, bon, il n'y a pas que ce genre ou ce terrain dans votre production, mais en fait, elle est quand même extrêmement présente. Donc, d'où ça vient ? Est-ce que vous en avez lu très jeune ?
Alors, il n'y a pas de télé à la maison, au sens où il y a un écran, mais on n'a pas le droit de le regarder. Donc, j'ai une jeunesse littéraire. Donc, j'ai beaucoup lu. Il s'avère que dans ce que j'ai lu, gamin, très très vite, j'ai été vers Jules Verne, enfin dans les lectures enfantines, vers le fantastique ou le SF. Et donc, en grandissant à l'âge adulte, j'ai lu. Alors, je lisais à peu près 3-4 romans par semaine quand j'étais ado, parfois plus. Et à un moment, là-dessus, c'était la moitié, c'était de la SF. Donc, j'ai dû lire des milliers de romans de SF pendant mon adolescence. Et ça, c'est un genre majeur qui m'a marqué. Alors, il y a eu des moments clés. La lecture de Dune, je me souviens très bien, ça a été une révélation d'ordre cosmologique. Quoi. Enfin, c'était Asimov, bien sûr, Van Vogt, quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est des auteurs qui m'ont extrêmement marqué. Découvrir la drogue avec Dick sans prendre de la drogue. Voilà, c'est des choses... ça m'a vraiment construit. Donc, je suis... On n'avait pas beaucoup de cinéma, etc. Donc, je suis un auteur de SF littéraire. Romanesque, je viens de là. Star Wars, je l'ai vu à 17 ans. Quoi. C'est vraiment des choses que je découvre tardivement. Alors, il y avait eu un peu Cosmos 99 que j'avais vu quand j'étais tout gamin. Donc, il y a quand même des images de cette culture-là qui se sont inscrites au fer rouge dans mon cerveau. Mais elles sont minoritaires par rapport à une génération comme la mienne qui a été beaucoup plus Star Wars, les films, Blade Runner, enfin tout ça. Moi, c'est des choses que je découvre adulte. Quoi. Blade Runner, je me demande si c'est pas Mathieu Blofray qui me le montre à 22 ou 23 ans. Quoi. Donc c'est ça fait quand on me dit que ma SF est cinématographique en regardant mes planches, intérieurement je rigole toujours parce qu'il n'y a pas moins cinématographique que moi en tant qu'auteur de SF. Quand je pense SF, je pense roman tout le temps. Et il s'avère que, oui, 2000 ans d'essai de l'espace, il y a un type d'image qui m'a sidéré, qui ressort dans mon travail graphique. Mais quand je pense à mes histoires, quand je pense à mes ambiances, je pense roman tout le temps. Quoi. C'est contraire à tout ce qu'on peut imaginer en voyant mon boulot, je pense.
Mais 2001, de toute façon, est un film extrêmement géométrique. Alors, bon, il y a le monolithe, mais à l'intérieur du vaisseau en route vers Jupiter, on n'a que des courbes. Et c'est extrêmement graphique. Et ce sont des courbes que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans Universal War.
Oui, les plans très symétriques, le contrôle. Il y a énormément de travail sur les masses aussi dans ces compositions. Donc tout ça, je viens vraiment beaucoup de là, hein, ça c'est clair. Mais c'est des découvertes d'adultes. C'est pas du tout l'ancrage dans l'enfance. L'air de rien, quand on écrit, quand on dessine, on est très ancré à ce qu'on... Vous le connaissez tous, même sans même écrire. Les choses que vous préférez, souvent, c'est les choses que vous avez découvertes enfant. Parce que c'est des révélations. La première fois qu'on voit quelque chose, jeune, on ne sait pas qu'il y a d'autres choses qui ont existé avant. Donc on a presque l'impression que la personne, l'artiste, a tout inventé lui-même. Et donc ça fait des chocs extrêmement majeurs. Quand on découvre des choses de la même puissance à 40 ou 50 ans, on est au courant, on voit tout de suite d'où vient cette œuvre, parce qu'aucun artiste ne sort de nulle part. Quoi. Et on trouve ça très bien, mais on n'est pas sidéré totalement par la nouveauté. Quoi. Donc voilà, tout ce qu'on découvre entre 10 et 20 ans, c'est des chocs absolus qui restent pour la vie. Et donc souvent quand même, quand on crée, il y a une partie de nous qui est toujours le gamin qui a sidéré et qui a envie de faire la même chose. Quoi.
Ouais, c'est un très beau train électrique. On parlait de science-fiction. Néanmoins, parmi les premières bandes, on en a quand même, et surtout Universal War, qui sont publiées chez Soleil, hein, et qui est un éditeur qui a la réputation d'avoir beaucoup publié de fantasy, et finalement moins de science-fiction. Qu'en est-il vraiment ?
Qui avait même mauvaise réputation sur beaucoup de terrains à l'époque. J'ai dû quitter les éditions Delcourt à l'époque parce que Guy Delcourt ne voulait pas que je sois auteur complet. Donc, de fait, à un moment, il a bien fallu que je trouve une maison d'édition qui acceptait que j'écrive ma propre histoire, que je fasse tout. Quoi. La seule qui a voulu à l'époque, c'était Soleil. Donc, Soleil avait mauvaise réputation parce que pendant ses premières années, il avait un peu jonglé avec l'argent qu'il n'avait pas. Pour continuer à publier, il a bien fait parce que finalement les auteurs qui l'ont suivi dans les montagnes russes du début sont Arleston, Tarkin, etc. Donc c'est des gens qui l'ont pas regretté par la suite. Mais dans le milieu, on disait beaucoup oh là là, attention. Bon, en plus il était arabe, donc évidemment c'est un voleur. Donc je crains malheureusement qu'il y ait eu à l'époque aussi du racisme dans une partie du milieu. Et moi j'ai été chez Soleil et tout le monde m'a dit mais n'y va pas, alors ils font que de l'heroic fantasy, c'est un arabe, c'est un voleur, et puis c'est une maison grand public, très grand public, ça plaît aux foules, donc c'est obligatoirement de la merde. Il y avait cet inconscient là aussi, on connaît un peu le snobisme malheureusement qui circule. Et j'ai été là-bas par exemple, je pense qu'à peu près la moitié des auteurs que je fréquentais à l'époque ont arrêté de me parler.
Enfin, bon, grand public, il y en avait aussi chez Dargo, il y en avait chez Casterman,
mais c'était pas trop l'esprit de chez les jeunes auteurs. On était un peu snob, on était chez Delcourt à l'époque. Il y avait un peu ça, hein, c'était pas. Oh, je pense que c'était des illusions artistiques, hein, parce que c'est la première génération qui sort des écoles d'art aussi. Hein. Avant, un auteur de bande dessinée dans les années 50-60, c'est un fils d'ouvrier, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Dans les années 90, voilà, on a des générations d'auteurs qui sortent de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, des Arts Déco de Paris comme moi ou Mathieu.
L'atelier Saint-Luc.
Voilà, et dans ces écoles-là, voilà, l'atelier Saint-Luc, et dans ces écoles-là, on nous dit, oui, vous êtes des artistes, vous devez avoir de l'ambition, vous devez se créer, sortir de... Ce qui est très bien, ce qui est formidable, mais ça va toujours de pair, malheureusement, avec un mépris pour les formes populaires d'art. C'est-à-dire qu'on considère que quand tout le monde, trop de gens aiment, c'est de la merde. Il y a vraiment cet inconscient-là. C'est le fameux dialogue entre les arts mineurs et les arts majeurs. L'art mineur, c'est celui qui plaît au peuple, qui est facile d'accès, que tout le monde va aimer. L'art majeur, c'est l'art du roi. C'est celui qui est à clé, qui est complexe. Il faut avoir une immense culture pour y accéder. Et en plus, ça va avec l'art mineur, c'est l'art pop. Donc tout le monde peut acheter le même disque ou la même BD. Moi, je suis très content que tout le monde accède à mon œuvre à égalité en ayant acheté un livre. L'art majeur, c'est celui de la planche originale ou de la peinture. Et une seule personne, avec son argent, confisquera la propriété de cet art-là. Donc il y a vraiment ce dialogue-là qui est toujours là. Et à l'époque, on allait vers des tendances monarchiques de l'art, on peut le dire, contre les tendances populaires. Moi, je me suis toujours battu pour rester un auteur populaire. Ça ne veut pas dire que je fasse quelque chose de facile et toujours accessible. Mais je considère que je fais de la bande dessinée parce que j'ai adoré des œuvres pop et que je veux faire de la pop, quoi. Je veux faire quelque chose qui est accessible à tout le monde, quitte à ce que ce soit qu'une partie qui soit accessible. Après, oui, je pense qu'il y a des strates dans Universal War One où lentement et sûrement, je largue certaines personnes, mais avec un peu d'effort, je pense que je mets ce qu'il faut pour qu'elle puisse, si elle s'y intéresse, le comprendre. C'est l'antithèse du « vous voyez à quel point je suis génial, ben, c'est vous qui allez faire des efforts pour venir me voir ».
Alors, il y a aussi, justement, puisqu'on parlait de Soleil et d'autres éditeurs, puisqu'il y a eu donc Delcourt, Soleil, Les Humanos, et puis bon, maintenant notamment Casterman.
Dupuis aussi.
Et puis il y a eu Dupuis également. Quelles sont généralement les relations avec les éditeurs, surtout dans le cadre d'albums qui sont pas forcément dans leur culture? Par exemple, c'est vrai que présenter un projet d'envergure de science-fiction, c'est pas forcément toujours évident.
Alors,
Soleil
avait un avantage, c'est que Mourad Boudjelal admettait qu'il n'avait pas bon goût, ou pas mauvais goût, mais que quelque part il n'était pas apte à décider ce qui était bien ou pas bien. Et donc il signait des auteurs, il signait pas des projets. C'est-à-dire il se disait, ce type me plaît, j'ai aimé ce qu'il a fait avant, j'ai apprécié ce qu'il a fait avant, je vais lui faire confiance. Et il signait vraiment des auteurs, il signait pas des projets. Quand il m'a signé, il n'y avait rien. Il a signé Denis Vajra. Et il m'a dit, ça va s'appeler comment ? Je ne sais pas. Donc le contrat d'Universal War One, il commence par contrat pour un livre portant le nom de, trois petits points, titre à définir par l'auteur plus tard. On voit, il n'y avait pas d'histoire. Il n'y a pas un mot d'histoire.
On met titre provisoire voilà. Quand on n'est pas sûr.
Oui, il a marqué titre à définir par l'auteur. Là, on sent qu'il fait confiance à l'auteur à 100%. Et il m'a fait un chèque en blanc pour que je fasse ce que je voulais, parce qu'il avait confiance en moi. Il avait lu Cryozone, il avait trouvé ça chouette. Didier Tarquin et quelques autres dans sa maison d'édition lisaient Denis, il est super, il a envie de faire des choses incroyables, tu lui fais confiance. Christophe Beck était déjà chez Soleil. Enfin voilà, c'est des gens qui ont chanté mes louanges, entre guillemets, auprès de Mourad, mais voilà, qui l'ont donné envie aussi. Et voilà, j'y suis allé, et alors il m'a dit. Alors moi, j'ai voulu le rassurer, je lui ai dit, oui, j'ai un projet super, tu vas voir, c'est un truc spatial énorme, je n'ai pas encore le titre, mais c'est vraiment énorme. Ah super, si c'est énorme. Bon, bah, ça tombe bien que tu sois bien prêt, parce que dans 3 mois, on commence l'Enfeuse Mag, donc il faudrait qu'on ait les premières pages. Ah oui, aucun problème, Mourad. Et puis alors, là, je raccroche mon téléphone, je fais... 3 mois pour sortir les premières pages, faire l'histoire, etc. Voilà, donc c'est... Mais en même temps, c'est l'opposé de l'éditeur qui contrôle tout, qui vérifie tout. Alors, chez Soleil, ça a provoqué la publication d'albums, mais vraiment très mauvais. Il y en a eu. Parce que quand on fait comme ça, bah on peut se ramasser d'énormes bouses. Parce que...
Oh, il y en a eu.
Voilà. Et en même temps, il n'a jamais coupé les têtes. C'est-à-dire quand ça devait monter au-dessus. Parce que parfois, quand on contrôle, on coupe la tête. Hein. On a tendance. Pour avoir tendance à avoir un catalogue qui ressemble à une allée bien taillée. Quoi. Et à l'arrivée, il n'y a plus rien qui dépasse. Quoi. Chez Soleil, ça a dépassé plus d'une fois. Voilà. Chaque manière d'éditer a ses avantages et ses inconvénients. Alors, c'était un commerçant génial. Alors, je dis c'était parce qu'il a vendu sa maison d'édition. Il est encore vivant. C'était un commerçant génial et finalement moi je savais ce que je voulais faire. À l'époque j'avais pas le projet, mais dans la tête j'avais l'énormité de ce que je voulais faire et j'avais besoin de quelqu'un pour le vendre. Donc en fait on s'est entendu comme parfaitement sur ce projet parce que nos deux manières d'envisager notre travail étaient parfaitement compatibles.
Alors aujourd'hui vous êtes également justement éditeur, hein, puisqu'il y a
je ne suis plus.
Il y a la fameuse collection Cadran.
Alors, Cadran, que... en fait, on a rendu les clés parce qu'au moment où Mourad Boudjelal, en gros, est parti de Soleil.
Et comment ça s'est passé avant ?
Bah, avant, c'était justement chez Soleil, on était quand même avec Valérie. Hein, je dis nous, c'est avec Valérie Mangin.
Pourquoi avoir créé déjà
voilà,
Cadran ?
On publiait des livres qui est quand même un peu bizarre au milieu de ce catalogue d'Heroic Fantasy, très, très ado-adulte, mais même ado, etc. Parfois, quasiment à chaque fois, la première question qu'on nous posait en interview, c'est « Pourquoi vous êtes chez Soleil ?» Alors, on avait marre de répondre. C'était beaucoup plus simple de dire, on va faire un petit pan de catalogue plus clair, avec une image claire qui est plus adulte, identifiée. Comme ça, au moins, on répondra plus à cette question-là. Puis ça évitera aux gens de se poser des questions débiles, qui est de savoir si c'est Soleil, c'est bien, pas bien, machin. Ce qui est vraiment pas un sujet, quoi. Et de se consacrer à voilà. Et moi, j'avais déjà à l'époque demandé à Christophe Arleston à quitter l'Enfeuse Mag. parce que je trouvais que Universal War One, c'était un peu violent par rapport à un public qui était assez jeune quand même, dans, et que ça allait vers de plus en plus de violences psychologiques, et j'avais pas obligatoirement envie que... Alors comme en plus, ça me mettait des contraintes de temps importantes, c'était pas en plus facile en termes créatifs, mais c'était surtout... Voilà, et j'avais l'impression qu'il valait mieux que je laisse ma place à des plus jeunes dans le magazine qui correspondaient mieux à l'état d'esprit et voilà, et qui avaient des pages... avec l'enfeust en tête de catalogue, il n'avait pas besoin de moi pour tirer le tirage de sa revue. Hein, donc voilà. Donc c'était vraiment voilà. Donc on a créé Cadran où on a commencé à publier des choses voilà plus adultes, on va dire. Mais c'est quasiment des cases éditoriales pour que les gens comprennent, parce que dans l'absolu après. Il y a tellement de livres pour la jeunesse qui sont tellement adultes et vice versa, tellement de livres pour les adultes qui sont des gamineries que c'est pas, ça veut rien dire sur les livres eux-mêmes. C'est quasiment des cases commerciales, faut admettre ça comme voilà, accepter un moment qu'il y a des systèmes de vente et qu'il faut un peu rentrer dedans pour que les choses soient claires pour les gens. Quoi, voilà.
Ceci dit, comment se faisait le choix des albums à accepter pour être publiés ?
Au goût, le goût, que le goût, rien que le goût. J'aime pas. Après, du temps passé pour améliorer les projets ou ce genre de choses, beaucoup de temps, parfois, peu, mais le goût. Les critères avoir des critères pour dire si c'est bien ou pas bien, ou ça va marcher ou pas marcher.
Personne ne peut le savoir,
voilà.
Ça déjà.
Et même le bien, pas bien. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette. Comme si l'esthétique pouvait se résoudre à quelques règles simples qu'on pourrait appliquer à des projets, même pas à des albums finis, mais à des projets, à des choses qui sont dans l'œuf. C'est tellement plus simple de se fier à cette chose complexe qu'on développe avec le temps, qui est le goût, qui est l'accumulation de tonnes de choses qui font qu'à un moment, ça sonne pas. Et sachant qu'a priori, il y avait d'autres éditeurs pour publier les choses qui n'auraient pas sonné chez nous et qui auraient été géniales. Quoi. Mais alors, on a signé assez peu de livres parce qu'en fait, de fait, Mourad Boudjalal est parti dans le rugby à ce moment-là. Donc, envisager de faire de l'édition sans lui, alors qu'il était vraiment le moteur économique et commercial de la boîte, ça ne nous paraissait pas une bonne idée. Donc, on a confié les clés à l'éditrice qui était venue avec nous dans 4 ans et on l'a laissé continuer seul ce catalogue.
Au départ, dans la biographie, j'ai précisé... j'aime pas trop ce type de précision parce que je considère que c'est de l'ordre de la sphère privée. Mais je pense que c'est important, élevé dans la religion catholique chez les oratoriens et ayant perdu la foi, clairement, au moment où vous étiez aux Beaux-Arts. Si j'en parle, c'est d'abord, je veux bien avoir un petit peu plus de détails sur le type de formation religieuse que vous avez eue et surtout parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a une influence. Soit éthique, soit thématique dans le travail. La Bible de Canaan citée systématiquement dans Universal War, ou alors dans Expérience Mort publiée chez Ankama, où on est en train de poursuivre le trajet d'une âme, une sorte de voyage des morts, mais technique, technologique, de science-fiction, mais de la métaphysique en science-fiction, ce qui est quand même plutôt assez rare finalement. Donc d'abord, dans un premier temps, comment s'est passée cette formation, cette culture, et qu'est-ce que vous imaginez qu'elle ait pu vous apporter ?
Je suis né dans une famille très catholique, famille nombreuse, où on priait à la maison, on avait un petit oratoire dans la maison et tout, donc voilà, enfin une famille très religieuse, très progressiste en même temps. Hein, c'est pas le, faut pas penser que c'est le cliché de la famille catholique réactionnaire avec beaucoup d'enfants, parce qu'il y avait une partie de mes origines sociales qui sont comme ça, mais mes parents, c'est un couple très compliqué, avec mon père qui est le fils d'un réfugié albanais et ma mère une grande bourgeoise. C'est le mélange des deux a été assez étonnant, et ils étaient très progressistes. Hein. C'est-à-dire que je lisais Science et Vie quand j'étais tout petit, parce que papa était abonné. On parlait science, évolution, enfin tout ça avec mon père quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Quoi. Il m'expliquait bien les choses, et puis à côté, on croyait à Dieu. C'est-à-dire que c'était vraiment deux mondes totalement séparés. Mais on croyait beaucoup à Dieu. C'était très présent. C'était vraiment très important. Et moi, j'ai cru à Dieu. J'ai cru quasiment qu'il me parlait jusqu'à l'âge de 17 ans. Quoi. Donc ça a été vraiment... Je n'avais pas de raison de mettre en doute que mes parents m'avaient appris là-dessus. Surtout que ça donnait du sens à ma vie, à tout ça. Il y a eu une rupture nette qui a été liée à l'arrêt de mes études de maths, à un changement de point de vue politique, à tout ça, à la lecture de Nietzsche, qui fait que j'ai perdu la foi du jour au lendemain. Et que on est passé du sentiment de la foi, le sentiment que Dieu existe et conduit le monde, à une culture qui est restée, qui est maintenant, parfois chez moi, est une culture de l'énervement contre le catholicisme et tout ça, mais qui reste aussi une fascination historique pour l'objet. Voilà. Puis j'avais fait pas mal de théologie quand j'étais gamin. Ado, je me suis vraiment intéressé à ça. Donc j'ai fait des cycles de théologie. Donc je peux faire des heures pour ceux que ça intéresse sur des questions de théologie. Finalement, ça plaisait à mon cerveau mathématique. Parce qu'en fait, c'est une science très, très construite, hein, la théologie. Hein.
La dialectique.
Si cet axiome dit ça et ce second axiome dit ça, alors le troisième axiome conclut que la Vierge était Vierge. Quoi. C'est qu'on arrive à des raisonnements complètement abracadabrants comme ça, à la fin, où on affirme des choses qui sont contraires exactement à ce que dit Jésus-Christ dans l'Évangile, mais c'est quand même vrai parce que ça a bien été construit. Donc, donc par exemple, on peut accumuler énormément de richesses alors que l'autre dit qu'il faut vivre avec les mains dans les poches. Quoi. Mais voilà, et c'est passionnant parce que c'est 2000 ans. Quoi. On est dans une tradition très vieille, en plus 2000 ans si on ne compte pas le judaïsme, si on y rajoute la tradition judaïque, on s'en remet quelques milliers. Voilà, donc et si on rajoute toute la tradition grecque qui vient nourrir cette théologie, c'est vraiment passionnant en termes de culture. Quoi. Comme on peut se passionner pour les tableaux d'histoire de l'art qui représentent des saints sans croire que Saint-Denis s'est vraiment baladé avec sa tête sous le bras sur quelques kilomètres. Quoi.
Mais alors justement, donc je citais tout à l'heure Expérience Mort, qui est co-scénarisée avec Valérie Mangin. Comment cette idée est-elle arrivée et surtout comment avez-vous tous deux trouvé le moyen de finalement rendre technologique un voyage dans l'au-delà?
Alors l'idée de départ, je ne sais plus très bien. Je sais qu'à un moment ça a cristallisé parce qu'on a pensé à L'Aventure intérieure, ce film où ils prennent un sous-marin, ils le réduisent, ils se baladent dans un corps et on nous explique vaguement le fonctionnement du corps depuis l'intérieur avec ce sous-marin. Mais c'est vraiment cette idée-là qu'à un moment, on s'est dit, il faut qu'on le fasse comme ça. Il faut qu'on fasse une aventure métaphysique, mais en utilisant un objet scientifique aussi idiot qu'un sous-marin. Alors, ce n'est pas un sous-marin chez nous, c'est une sorte de vaisseau spatial pour naviguer dans l'au-delà. J'ai utilisé le bon vieux verbiage traditionnel de la physique quantique pour rendre ça crédible. Donc, les tachyons qui vont à gauche et les autres qui vont à droite, quoi. De fait, on a utilisé les problématiques de voyage dans le temps un petit peu, enfin en tout cas de continuum espace-temps, parce que s'il y a un au-delà, on s'est dit que c'était une dimension, ça pouvait être une dimension finalement qui existerait dans la physique quantique. Donc voilà, ça a été tout le. Après, pour nous, c'est un projet assez étrange, je pense que Valérie pourrait le confirmer, qui est coincé entre la métaphysique et la série Z. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une envie de faire une série B, quelque chose. Presque avec des barbouzes et en même temps d'emmener ça dans la métaphysique, c'est-à-dire créer un vrai trouble sur le niveau de langage, parce qu'on quand on le voit, on pourrait, en plus avec le dessin de Jean-Michel Ponzio qui est très photographique, ça fait très réaliste, film d'action, etc.
Oui, j'allais justement en parler, oui, voilà. Parce qu'il amène une solidité à un récit qui justement est théoriquement désincarné.
Et c'est pour ça qu'on l'a proposé tout de suite à Jean-Michel, parce qu'on s'est dit, voilà, il va nous donner cette impression que ça existe. Et puis, en même temps, là, je pense que le lecteur, à la fin du terrain, déjà, il commence à se demander où il est, et il est totalement largué, je pense. Alors, on aime bien larguer nos lecteurs, j'espère qu'ils aiment bien ça. Il y a un côté, on aime beaucoup jouer avec eux. Parce que nous, en tant que lecteurs, on aime bien ça. On aime bien ne pas deviner à la page 10 la fin du livre.
Il y a un autre album où justement est publié chez Cadran, où il y a vraiment un jeu avec le lecteur, c'est Les Trois Christs, pour reprendre aussi la thématique religieuse. Mais là, je ne vais pas dire qu'on est dans l'Oubapo, mais il y a un cahier des charges de mise en page, ce sont trois récits parallèles, enfin trois alternatives plutôt de réalité. Est-ce que vous pouvez raconter et donner surtout la genèse d'un tel projet?
Alors en fait, le projet, ça je m'en souviens très bien, il est né sur la Grand Place de Bruxelles. On était en train de boire un coup et il y avait un couple qui discutait à côté qui était persuadé que Da Vinci Code, c'était vrai. Et avec Valérie, on faisait des bons parce que ce qui est bien dans Da Vinci Code, c'est qu'il a utilisé des tas d'éléments historiques, réels, des lieux, etc., il a assemblé ça pour raconter une histoire de complot. C'est typiquement le complotisme. On prend des éléments et on raconte n'importe quoi avec. Et que le fait que les éléments soient vrais, mais que le résultat soit de la pure fiction, ce qu'il n'a jamais cessé de dire, l'auteur, que les gens puissent derrière se dire non, mais c'est vrai de vrai, en fait. Et puis l'Église nous a menti, comme si elle n'aurait pas menti sur autre chose. Non, mais voilà, c'est sidérant, quoi, d'entendre des gens parler que l'Église nous a menti comme si elle passait son temps à dire la vérité depuis 2000 ans. C'était vraiment très étonnant. Et on s'est dit, c'est fou comment la sensibilité à la manière dont le matériau est présenté, les gens ne se rendent pas compte qu'on peut manipuler complètement le matériau réel. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'utiliser les mêmes cases et les mêmes textes et de raconter trois histoires totalement différentes avec. C'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire qu'on a bien montré qu'avec le même matériau, on peut raconter tout et son contraire. Donc la première histoire raconte l'apparition historique du Saint-Suaire. C'est-à-dire qu'on sait quand il a été, on sait quand il a été fait. On a un jugement ecclésiastique qui nous dit quand même que c'est un faux à l'époque, avec le peintre qui se présente. Tout ça est dans l'histoire. Il y a des documents dont il est, comme par hasard, daté exactement à la même époque, de la même époque au niveau par la datation carbone 14. Donc voilà, a priori, on a pris le parti pris purement scientifique et historique, et on raconte son apparition dans un village en Champagne à une certaine époque. La seconde histoire, c'est dans le même village. Pourquoi le vrai Saint-Suaire, s'il avait été ramené de Terre Sainte, comment serait-il arrivé là? Pourquoi ressortirait-il à ce moment-là? Et comme on considère à ce moment-là que c'est bien une pièce religieuse, alors Jésus existe. Donc on fait intervenir le fait religieux, c'est-à-dire qu'il y a une apparition du Christ réel, etc. Donc c'est bien la version religieuse de l'apparition. Et la troisième version, donc la première crédible, la seconde pas religieuse, scientifique, et la troisième, c'est la version n'importe quoi, la version Da Vinci Code. Donc en fait, on raconte une histoire, on n'a pas mis les extraterrestres, mais on a quand même les météorites radioactifs. Faut bien expliquer tout ça, quoi.
Dieu est radioactif.
Voilà, donc à la fin, la conclusion, c'est que Dieu est radioactif. Voilà. Ce qui est, c'est fait avec en gros les mêmes cases et les mêmes textes. Donc il y a un jeu derrière formel, mais c'est aussi pour bien montrer en partant des mêmes éléments, on peut vraiment raconter n'importe quoi.
Alors, ce qui est amusant, c'est que aussi dans les trois récits, évidemment, on a des personnages identiques. Parlons un peu de personnages. Dans Universal War, on a sept personnages principaux, enfin ceux de l'escadrille Purgatory. Ils sont, si on compare avec d'autres personnages, disons plus classiques de la BD et qui sont considérés comme des héros qui vont réussir à sauver le monde. Bon, déjà dans Universal War, ils arrivent moyennement à le sauver, pour commencer. Mais c'est surtout que ce sont des personnages qui finalement ont beaucoup de défauts, de problèmes personnels. Comment ont-ils été conçus à la base ?
Alors, pour revenir à Universal War, la conception initiale, donc on me fait un chèque en blanc pour faire ce que je veux. Et j'ai rien. Alors en fait, la première semaine, j'ai couché sur le papier tout ce que je voulais faire. Parce qu'il y avait des tonnes d'idées, des tonnes d'envies, tout ce que j'avais accumulé depuis 10 ans, 15 ans en termes d'envie. Et j'ai tout mis. Bon, j'ai mis que tout ce qui concernait la SF, évidemment. Et assez vite, c'est dessiné des grands ensembles. C'est comme ça qu'en fait, j'ai trois cycles. C'est qu'en fait, j'ai commencé à casser les idées. Et assez vite, c'est imposé l'évidence qu'il fallait évidemment qu'au milieu de toutes ces idées de science-fiction, je mette des humains, parce que raconter, faire une encyclopédie de la SF, c'était pas très intéressant.
Le chiffre 7 est innocent ?
Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ça dépend comment on compte. Si on y met l'amiral, etc., il y en a plus. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir en termes de personnages, ce qui s'est imposé à ma tête, c'est un peu idiot, mais je me suis dit, ah, faut que je fasse une équipe comme les X-Men, ça va être rigolo. Bon, à part que je les envisageais pas de les faire voler, de les faire avoir des griffes et tout, mais l'idée de l'équipe s'est imposée parce que la relation entre les personnages permet de révéler des tonnes de choses passionnantes, surtout s'ils sont très opposés en termes de psychologie les uns aux autres. Et donc derrière, bon, on retire les super-pouvoirs et les costumes, et assez vite s'impose l'idée que finalement, ça devrait être des gens assez cassés. Et là, je me souviens très bien avoir pensé aux têtes brûlées, la série sur les aviateurs de 39-45, une escadrille de bras cassés, justement, qui sont rassemblés par Papy Boynton.
Avec Robert Conrad.
Voilà, avec Robert Conrad. Et où, en effet, c'est que des gars qui auraient dû terminer dans les différentes cellules de la police militaire et qu'on met dans une seule escadrille parce qu'il y a un gars qui est à peu près dans le même état qu'eux, qui veut bien s'en occuper. Et finalement, ça a été des grands héros de la guerre, ces gens-là. Et l'idée s'imposait, je dis, voilà, je vais partir d'une escadrille de bras cassés, alors même si après, c'est assez différent. Parce que parler des Universal War One parle quand même avant tout de nos errements en tant qu'humanité. c'était assez intéressant en fait de s'appuyer sur les errements en tant qu'humains des personnages. Mmh. Tous ces micro-errements sont bien composent bien les errements globaux de l'humanité, quoi. Mmh. Donc il y avait ça, voilà, je trouvais que ça, tout ça s'harmonisait bien. Voilà, et donc en une semaine, 15 jours, j'ai rassemblé tout ce package-là et j'ai fini par écrire cette histoire-là de manière très éruptive, comme ça.
Une dernière question pour la route. Dans le contexte actuel de la bande dessinée, qui est un peu délicat parce que surproduction, parce que difficulté finalement pour survivre, bon, j'oubliais de préciser aussi que vous êtes un des membres fondateurs du SNAC, donc pour essayer d'avoir un dialogue avec les éditeurs pour stabiliser le métier. Quel serait le conseil que vous donneriez à un débutant ?
Il y a la moitié de moi qui aura envie de le dire, tu t'en fous, t'y vas. Oui, c'est très très dur de vivre de la bande dessinée, mais vas-y. C'est le même. En fait, en gros, aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, la bande dessinée, qui était un milieu de professionnels, quand moi je suis rentré dans ce métier, c'était majoritairement des gens professionnels, on était 700, et des gens qui étaient correctement payés, qui gagnaient pas des fortunes, hein, mais qui étaient au moins smicards, et qui en vivaient. Maintenant, on est 3000 auteurs, il y a 4 fois plus de livres qui sortent, et en fait, de moins en moins de gens en vivent. Alors, les états généraux de la bande dessinée, les études qu'on a fait au niveau des auteurs nous ont montré qu'il y avait déjà 50% des auteurs qui étaient sous le SMIC. Donc voilà, et 30% sous le seuil de pauvreté. Donc on est dans vraiment une paupérisation. Donc j'aurais envie de dire, par la moitié de moi, j'aurais envie de dire, alors voilà, la bande dessinée, c'est en train de devenir comme le rock. Si tu te lances là-dedans, il est probable que tu n'auras jamais de succès. Et puis si ça marche, tu auras tout, quoi. Mais dans ce cas-là, réfléchis bien, est-ce qu'il faut dépenser des fortunes dans une école ? Parce que est-ce que les écoles de Johnny Hallyday, ça existe ? C'est un peu ça. Est-ce qu'il ne faut pas garder quand même un vrai métier à côté ? Et puis l'autre moitié de moi, elle sait que la bande dessinée, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est long. En tout cas, c'est de dessiner des albums, c'est très très long. Et qu'on ne peut pas faire ça en ayant un autre métier à côté. Et donc, cette autre moitié a envie de dire aux gens, consacre-toi à plein temps, abandonne tout pour ça, et puis si tu y crois, tu y arriveras. Mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, j'aurais beaucoup de mal à donner un conseil à un jeune aujourd'hui. Je suis très embêté quand j'en croise. Donc je leur dis la vérité. Je leur dis la vérité de la dureté de ce milieu, et je les laisse prendre la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de leur dire lâche tout ou garde une activité à côté, parce que s'ils gardent une activité à côté, ils diminuent clairement leurs chances d'aboutir. Et mais s'ils ne la gardent pas, comme ils ont peu de chances d'aboutir, ils diminuent leurs chances de réussir leur vie, en tout cas économiquement. Donc voilà, c'est vraiment devenu très délicat. Et il ne faut pas que le seul truc auquel je tiens, c'est que des auteurs comme moi qui ont la chance d'avoir du succès, d'être arrivés, d'être connus, on ne doit pas envoyer cette image, la BD c'est génial, etc. Parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi.
Il est 18h02, merci Denis. Bonne soirée.